Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Joachim Umlauf, bonjour.
Bonjour.
Ravi de te rencontrer aujourd'hui. On est à la gare de Marseille, on est au soleil. On se retrouve ici dans une ville que tu connais très très bien.
Écoute, je viens à Marseille en fin de compte depuis 2010. En 2010, j'ai pris la direction du Centre culturel allemand à Paris, le Goethe-Institut. Et du coup, à ce moment-là, on préparait d'une certaine façon déjà l'année 2013, donc de la capitale culturelle européenne à Marseille. Et quand j'étais responsable pour toute la France, on commençait à réfléchir ce qu'on allait faire à Marseille, parce que ce qu'il faut savoir, il y avait un centre culturel allemand, un Goethe-Institut à Marseille, mais qui avait été fermé en 1998. Et c'est à ce moment-là qu'on a discuté d'une réouverture d'une petite branche, d'une filiale, d'un bureau du Goethe-Institut à Marseille. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir réaliser ça dans le cadre de la capitale culturelle européenne à Marseille et en région en 2014. Donc après cette année-là, on a ouvert un bureau qui se trouve encore aujourd'hui à la Friche de Belle de Mai. Et qui fait pas mal d'activités avec la Méditerranée, avec la société marseillaise, et ainsi de suite. Voilà, c'est donc depuis plus de 15 ans, je viens très très régulièrement à Marseille. Et je suis aussi installé ici parce que ma femme m'enseigne à l'université. Quoi.
Comment tu te décrirais?
Comment je me décrirais? Donc, un Allemand. Né en 1959, c'est-à-dire d'une génération où toute la question de la culpabilité de la société de nos pères, du national-socialisme, jouait un rôle prépondérant, très important. On était né après, bien entendu, mais étant né 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça fait avec toi ? Où tu vis avec les personnes qui l'ont vécu, eux-mêmes peut-être aussi enfants, comme mes parents, ou jeunes, mais aussi les grands-parents qui avaient, oui ou non, une part coupable ou responsable ou non dans cette affreuse dictature. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, bien entendu, imprégné à l'époque, d'autant plus que toute ma famille vient de l'Est, c'est-à-dire j'ai des ancêtres d'Autrichiens, Tchèques, Polonais, et ils ont dû quitter la Silésie, donc la partie orientale de l'Allemagne en 1944 pour s'installer en Allemagne de l'Ouest. Et donc toute cette histoire pesait énormément et ça m'a toujours motivé d'ailleurs aussi d'aller en tant que expert culturel à l'étranger pour essayer d'œuvrer, pour essayer de travailler avec les autres sociétés pour surtout créer des liens culturels et pour essayer d'améliorer et d'augmenter donc la compréhension mutuelle des sociétés et des cultures. À la base, tu sais, j'étais toujours un tout petit peu à l'interface entre le monde culturel et l'université. Je voulais devenir universitaire. J'ai fait une thèse sur la littérature et l'art français, d'ailleurs. Et je voulais continuer. J'ai enseigné longtemps à la Sorbonne Nouvelle, à l'Institut d'études politiques et d'autres établissements universitaires en France. Et encore aujourd'hui, je suis chargé de cours dans plusieurs universités. Donc, j'étais toujours très attiré par l'enseignement universitaire, mais bon, par des péripéties dans la vie, j'ai entamé en même temps une deuxième voie, une deuxième carrière. C'était travailler pour l'Institut culturel allemand, le Goethe-Institut, en tant qu'organisateur d'événements culturels, directeur et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'étais pas seulement en France, mais aussi en Italie, en République tchèque et tout récemment, jusqu'à il y a quelques mois, en Roumanie, à Bucarest.
Et aussi en Pays-Bas, ou non ?
Si, tout à fait en Pays-Bas. Merci de me le rappeler. Donc, à Amsterdam et à Rotterdam, pendant quelques années. Absolument, oui.
Et ici, à Marseille, c'est à ce moment-là que je t'ai connu, d'ailleurs. On te connaît aussi en tant qu'organisateur d'exposition. Donc, il y a eu aussi des choses qui ont lieu à la Friche de Belle des Mets. Alors, c'est peut-être pas sous ton nom que ça s'était montré, mais c'était le Goethe-Institut qui faisait des expos.
Tout à fait. On fait beaucoup de choses, mais peut-être, si tu permets, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que quand tu as éminéré un tout petit peu les stations de ma carrière professionnelle, bon, tu as bien entendu les Pays-Bas, la France, l'Italie, voire la République tchèque. Donc, c'est ça. Donc, en gros, j'étais souvent dans des pays voisins de l'Allemagne, et ça relie un tout petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure, dans des pays qui avaient en grande partie souffert sous l'occupation nazie ou justement la dictature nazie. Donc ça c'était très important pour moi aussi de souligner ce fait, de travailler dans ces pays. Ça voulait dire aussi, peut-être aujourd'hui un peu moins, on peut revenir peut-être tout à l'heure aussi à la réconciliation franco-allemande, mais au début c'était aussi d'essayer de créer de la confiance, de travailler ensemble. Je ne dirais pas de guérir les plaies, parce qu'on peut pas le faire, mais d'essayer de montrer que l'Allemagne après 45, l'Allemagne de l'Ouest dans un premier temps et après l'Allemagne entière dans un deuxième temps, était devenue démocratie et aussi capable et aussi de bonne volonté de se confronter aux erreurs du passé, à l'histoire noire de son pays et ainsi de suite. C'était très très important de ça. Et après ces dernières années, si tu permets, je suis allé en Roumanie parce que je voulais un tout petit peu aller plus loin, en marge de l'Europe. En sentant que souvent en Europe de l'Ouest, on savait très peu de choses de l'Europe de l'Est, moi inclus, quand je suis allé en Roumanie. Et c'était pour moi un vrai défi d'aller dans un pays plus loin, qui, d'une certaine façon, aussi rencontrait des intérêts que j'avais, parce que la Roumanie est un pays de la francophonie, on parle beaucoup le français là-bas, et c'est aussi un pays très lié à l'Allemagne, dû à la minorité allemande qu'on trouve toujours en Roumanie. Mais c'était aussi une expérience tout à fait normale, nouvelle, et qui, d'une certaine façon, a aussi changé pas mal d'avis, d'opinions, de préceptions qu'on peut avoir sur la culture. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup plus en Roumanie qu'ici, en France, que notre tâche aujourd'hui, je dirais, en tant que représentants des instituts culturels étrangers, que ce soit le Goethe-Institut, l'Institut français ou d'autres instituts d'autres pays, l'Institut culturel italien et ainsi de suite, est en train de changer. Après 45, par exemple, les premiers instituts, ils étaient là pour, comment dire, représenter la culture d'un pays, pour inviter des troupes de théâtre, des chanteurs, des quatuors, des orchestres, des écrivains, bien entendu, et de le présenter au public de l'autre pays. Ça, c'est toujours le cas. Il faut toujours le faire parce que, tu sais, Nadia, la culture ne voyage pas bien. C'est-à-dire, contrairement à d'autres choses, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ignore sur la culture des autres, et il faut promouvoir la culture, faire connaître la culture. Mais en même temps, je dirais, le rôle qu'on tient est en train de changer et c'est bien et il doit changer. Qu'est-ce que j'entends par cela? Parce que quand on voit le monde d'aujourd'hui, et il faut... tout le monde suit les nouvelles actuelles, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Ukraine et autres, on ne peut plus ignorer la situation dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, pas seulement par rapport à l'étranger. Regarde ce qui se passe dans le pays. La montée quasiment, fulgurante du populisme, de l'extrémisme de droite, que ce soit en Allemagne, qu'en France, en Hongrie, ou dans d'autres pays. Peu de pays sont vraiment épargnés par cette mouvance. Nous, mais c'est au moins... ma conviction, dans une situation où il faut combattre. C'est-à-dire, on ne peut plus se contenter d'organiser de belles soirées avec des concerts, des écrivains, et ainsi de suite. Et encore une fois, ça va toujours faire partie de notre travail. Mais ce ne peut pas être l'aspect unique. C'est-à-dire, nous devons, nous tous, ensemble, justement essayer... de concevoir un travail politico-culturel, si j'ose dire. Et ça n'a rien à voir avec les partis, ça n'a rien à voir avec droite ou gauche, comprends-moi bien, mais ça a à voir avec la démocratie. Hein, et avec ce qu'on a pu créer, la démocratie parlementaire, et c'est ça ce qu'on doit faire. Et ça aussi avec la culture. Bon, comprends-moi bien, c'est pas tellement simple qu'on se pose devant un public, on dit il faut combattre pour la démocratie. Mais il faut faire des choses. Et je te donne peut-être quelques exemples bien concrets, des expériences que j'ai faites en Roumanie, qui ne se laissent pas transposer un par un en Allemagne ou en France, mais qui jouent un rôle important quand même. En Roumanie, par exemple, nous avons, en tant qu'institut culturel, et d'ailleurs aussi bien avec l'Institut français, les partenaires, parce qu'on travaille très bien à l'étranger avec l'Institut culturel français et le Goethe-Institut. Je vais y revenir dans un instant. Pourquoi ? Mais on a travaillé beaucoup avec la communauté de Roms. Parce qu'il faut savoir qu'en Roumanie, comme en France et d'autres pays, mais là encore plus fortement, la communauté des Roms est marginalisée et les prestations, les performances culturelles, artistiques établies, créées par les Roms sont toujours peu acceptées dans la société. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider des groupes marginalisés? Comment on peut leur donner la force et les éduquer? Et éduquer joue un rôle très important dans ce concept de la culture, pour qu'ils puissent s'emparer eux-mêmes de leurs possibilités. Parce que bien entendu, nous, on n'est pas des travailleurs, comment dire, on n'est pas des on n'est pas dans le social, on reste dans le culturel. Et ça, c'est très important. Et ça aussi, c'est très intéressant, tu vois, c'est un tout petit peu le résultat aussi de la réconciliation franco-allemande. Qu'est-ce que j'entends par là? En Roumanie, l'Institut français et le Goethe-Institut sont seulement à quelques centaines de mètres de distance. Dans le temps, dans le passé, je veux dire surtout avant 45, mais aussi jusqu'à dans les années 70, les instituts culturels représentant des nations, l'Allemagne ou la France, étaient souvent en concurrence, en essayant d'attirer un maximum de gens pour leur programme, pour leur langue et ainsi de suite. C'est toujours, bien entendu, concernant les cours de langue et l'apprentissage de la langue, un tout petit peu le cas. Mais, d'une façon générale, les Français et les Allemands, ils ont vu qu'il y a cette nécessité de coopérer. C'est-à-dire, on ne peut plus se mettre dans un coin et dire « on fait les choses pour nous, vous le faites pour vous ». On travaille ensemble, on est européens, on a cette conscience que seulement... en coopérant, on va arriver à réaliser et à maintenir, ce que j'ai dit tout à l'heure, cet esprit européen de démocratie et de participation. Et ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend la question de la participation, de l'inclusivité, de la justice des genres, de l'occupation des minorités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est devenu très important, et là, ça c'est un détail très technique, mais très important. La France et l'Allemagne, ils ont créé un fonds nourri par à peu près 400 000 euros des deux côtés tous les ans pour faire des projets culturels ensemble à l'étranger, c'est-à-dire pas en France, pas en Allemagne, mais dans les pays tiers. Et comme ça, par exemple, en Roumanie, on a fait tous les ans de grands projets franco-allemands, bien entendu avec des partenaires roumains également, pour apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est un tout petit peu l'esprit qui doit nous porter. Et c'est pour ça que je dirais que le travail que l'Institut français et le Goethe-Institut font en France et en Allemagne, c'est très, très valable. Ils font beaucoup de choses. Mais à mon avis, et ça serait mon hypothèse, après ces années en Roumanie, il faut encore renforcer cet aspect sociétal. C'est-à-dire, comment peut-on arriver par la culture, de travailler ensemble, de créer des réseaux et aussi de combattre les tendances antidémocratiques. Je suis, depuis septembre, je suis de retour, je suis à Marseille et j'établis maintenant des projets pour moi, c'est-à-dire des projets, d'une part des projets européens, c'est-à-dire avec des fonds européens. J'en ai encore deux en cours qui justement traitent la question des asymétries entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire cette question comment après 89 on a peut-être négligé de valoriser un tout petit peu les cultures de l'Europe de l'Est et que ce soit en Allemagne elle-même, donc entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest et avec les pays de l'Est. Donc c'est un projet vaste et complexe, mais très intéressant, sur la même base, c'est-à-dire culture, société, développement et compréhension mutuelle. Et ça, c'est aussi très important parce que, tu sais, Nadia, moi inclus, bien entendu, nous, les Européens de l'Ouest, on doit aussi, se décolonialiser nous-mêmes, c'est-à-dire nos pensées, notre façon de concevoir des idées comme le centre et la périphérie, par exemple. Donc ça aussi, c'est imprégné par des idées qui donnent une sorte de supériorité. Quand on regarde par exemple le développement de l'art moderne, donc des centres comme Paris ou Berlin, des grandes villes, en négligeant un tout petit peu ce qui s'est passé à la périphérie. Hein. Donc, et là aussi, ça, c'est très important. C'est-à-dire, si on fait des projets, justement, je veux être aussi humble et modeste, c'est-à-dire, c'est aussi des projets pour se changer toi-même, c'est-à-dire pas seulement de regarder l'autre, ce qu'ils font. Et ça, c'est très important. D'accord. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais continuer à faire. Je suis aussi conseiller pour plusieurs théâtres en Roumanie qui veulent faire des activités européennes. Donc, je vais certainement m'y mettre à aussi essayer d'établir des applications avec eux. Et de l'autre côté, je pense que c'est ça ce que tu voulais dire, de l'autre côté, j'aimerais bien aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure ici, créer de nouveaux dialogues franco-allemands ou franco-germano-européens ici à Marseille, créer des plateformes, essayer de mettre ensemble des gens qui sur des sujets communs, tout en évitant un débat ou une forme trop académique, c'est-à-dire cette inclusivité, l'ouverture et ainsi de suite transposée à Marseille.
Ce que tu sais, comme moi, quand on est à Berlin. On sait un peu plus quand même de la Roumanie. On sait plus où. Enfin, je pense qu'en Allemagne, depuis l'Allemagne, on sait davantage où se trouvent Bucarest, Belgrade, Sofia. Alors en France, c'est vraiment très loin. Il y a quand même.
Oui, peut-être géographiquement, tu as raison, mais culturellement. L'ignorance est grande en France et en Allemagne, donc ça c'est sûr. Mais ne faut pas en faire des complexes, parce que l'ignorance est également énorme entre, disons, des pays voisins, comme la Bulgarie et la Roumanie. Quand tu poses une question aux Roumains, qu'est-ce qui se passe en Bulgarie, et inversement, l'ignorance est aussi énorme. Mais ce qui est important, c'est-à-dire il faut essayer de travailler ensemble, c'est-à-dire d'éviter tout sentiment de supériorité, mais d'essayer d'établir des coopérations. Ça, c'est la chose la plus importante.
Mais à Bucarest, par exemple, alors comment ça se passe? Enfin, les gens vont plutôt quand ils vont faire des études, par exemple artistiques, ils vont plutôt se tourner vers l'Allemagne ou vers la Serbie ou vers les États-Unis. Enfin, vers quoi ils sont attirés quand on est...
Je pense naturellement, Nadia, je pense aussi ici en France, il y a beaucoup de Roumains qui travaillent ici, mm-hmm. Qui font des études, qui travaillent, qui d'ailleurs travaillent dans des secteurs très différents. Il y a le travailleur simple, saisonnier par exemple, mais aussi des médecins d'origine roumaine, c'est vrai, et ça concerne l'Europe de l'Est en entier, c'est-à-dire tu as ce phénomène que beaucoup de jeunes ont quitté les pays, bon, pour justement aussi après l'adhésion à l'Union européenne en 2007 et la libre circulation, la mobilité, donc il y avait une sorte d'exodus, et puis beaucoup de Roumains ont quitté le pays. Et ça, c'est aussi quelque chose de très très important et de très intéressant, parce que dans nos projets, nous avons aussi essayé, je ne dirais pas de faire rester les Roumains, parce que c'est à eux de prendre cette décision, mais le fait de donner au secteur culturel au moins la force et les possibilités pour rester dans le pays, ça on l'a toujours aspiré, ça c'est très important. Donc, mais il est vrai que toujours pour beaucoup de Roumains, par exemple, qui ont des enfants censés faire des études, et ils vont tout faire pour que leurs enfants fassent au moins une partie de ces études à l'étranger.
Tu apprenais le roumain que tu parles souvent, est-ce que tu l'as fait pour tous les pays où tu étais directeur du Goethe Institute? Est-ce que, par exemple, tu parles aujourd'hui le tchèque aussi?
Écoute, oui et non. C'est-à-dire, je regrette un tout petit peu de n'avoir pas eu l'occasion d'apprendre encore mieux le roumain. Je le parle assez bien, mais comme beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, normalement, quand tu parles, comme je le fais, le français, l'anglais, l'allemand et encore quelques autres, l'italien, normalement, tu te débrouilles parfaitement, surtout dans une grande ville. Ça, c'est un tout petit peu un obstacle, un vrai obstacle à l'apprentissage de la langue locale. Je l'ai appris, je l'apprends toujours. Je veux aussi encore faire des cours du roumain. Le tchèque, j'étais seulement un an et demi en Tchéquie. Je parlais aussi correctement à un niveau très modeste le tchèque. Mais sinon, oui, c'est une question de respect. Et malheureusement, souvent, étant donné que nous, comme les diplomates, ne restent que quelques années dans les pays, on n'a pas trop de motivation d'apprendre la langue. Mais normalement, c'est maîtriser au moins correctement la langue t'ouvre beaucoup de portes. Il y avait des réunions, je me rappelle, avec par exemple le représentant des minorités en Roumanie, parce que ça c'est aussi un sujet dont on sait très peu en France, la question des minorités. J'étais invité et je pouvais y participer, oui, parce qu'on y parlait que le roumain, bien entendu.
Je voulais un peu donner à entendre aussi, c'est que tu es vraiment quelqu'un, enfin tu es un citoyen du monde, enfin de l'Europe au moins, donc tu connais vraiment très bien les différents endroits où tu as habité, tu parles la langue et ça fait de toi quelqu'un qui a un savoir très précieux concernant de la transmission. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut se valoriser.
J'enseigne depuis 40 ans quasiment, et je suis sûr que je suis un des plus anciens enseignants à la Sorbonne Nouvelle, où je fais par exemple des cours. Il y a un cours qui s'appelle les métiers de la culture, où j'enseigne justement ce qu'on ce qu'on peut faire, très pratiquement, ce qu'on peut faire dans la culture. Il y a un autre qui s'appelle les relations culturelles franco-allemandes au 19e et 20e siècle. Donc, je fais des choses comme ça. Mais tu sais, Nadia, ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire, j'enseigne, j'organise des événements, j'écris, je publie. Et faire, tant que je peux faire des choses différentes comme ça, c'est bien. Et je m'engage. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très important. Je m'engage pour la société civile, pour la démocratie, pour le franco-allemand et pour l'européen.
Merci beaucoup, Joachim.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Thank you.